Si je dois faire une histoire de l'Aquepervie, ça va durer jusqu'à ce soir. Donc je vais vraiment très rapidement tracer les choses. L'Aquepervie a été fondée en 1980 parce que à l'Assemblée générale de la Grande Motte, Assemblée de la Fédération protestante de France, il avait été dit dans les motions que l'avortement était un geste de libération, d'espérance et d'amour. Comment ça s'est fait? Il faut remonter au synode de Caen. Mon père était là-bas. C'était aussi une assemblée du protestantisme français à Caen. Et l'avortement était déjà au sujet, était déjà à l'étude. Et donc, il était dans la commission qui débattait de l'avortement. Il y avait des petits ateliers. Et puis, bien entendu, donc, est sorti de cet atelier que l'avortement était la suppression d'un être humain et donc qu'il y avait quand même le commandement « tu ne tueras pas » et que le Seigneur était le prince de la vie. Enfin bon, tout avait été dit. Et au moment de la conclusion de la réunion de Caen, c'était tout le contraire. Il y avait une motion disant qu'il fallait comprendre, qu'il y avait... alors là, il remettait toutes les informations, tout ce matraquage médiatique qu'on a eu, qui disait qu'il y avait 20 000 femmes qui mouraient d'avortement tous les ans, alors que c'était 50, et qu'il y avait jusqu'à 2 millions d'avortements. Enfin, les uns disaient 600 000, les autres disaient 2 millions, ce qui était absolument des chiffres absolument gonflés. C'était 50 000 en réalité. Donc, mon père a été extrêmement étonné de voir que on fait un débat, disons, démocratique entre guillemets, entre chrétiens pour un sujet d'éthique, et en fait, la conclusion est déjà préparée d'avance. Donc, ça c'était en 71. Et en 79, donc, le dimanche matin, il a fallu voter 32 motions qui ont été votées à toute vitesse. Et mon frère était témoin, là, il était là-bas. Et pour la motion sur l'avortement, il y a une dame qui a fait un discours très rhétorique, disant que ceux qui étaient contre l'avortement étaient des mauvais chrétiens, ceux qui étaient pour comprenaient les femmes, comprenaient les problèmes de la société, etc. Et puis, c'est passé comme une lettre à la poste. Il y a eu quatre abstentions. Donc, la pression était telle que même ceux qui étaient contre la conclusion n'ont pas osé s'insurger. Donc, à la suite de ça, donc, la motion, l'avortement, la légalisation de l'avortement est un signe de libération, d'espérance et d'amour. Et là, on s'est dit quand même, c'est pas la parole de Dieu, et c'est même sa déformation. Donc, quand on déforme la parole de Dieu, il y a un problème. Et donc, il se trouve que je me suis mis à écrire à tous les pasteurs de l'annuaire protestant pour leur dire ce que j'en pensais en tant que protestant et en tant que médecin. Et alors, il y a eu des réponses. Vous avez parfaitement raison, mais surtout ne le dites pas, ne dites pas que je vous ai contacté, etc. Il y en a d'autres qui disaient, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes un rétrograde, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et puis, il y avait les gens qui posaient des questions. Après, à la limite, c'est ce qui était attendu, que les gens posent des questions sur ce point de vue qu'on donnait. Il y a eu une dame qui s'appelait Madame Olivier, qui m'a contacté de la part de l'église baptiste du 12e arrondissement à Paris. Et elle a dit, mais je suis dans une association d'aide aux femmes enceintes, qui s'appelle SOS Future Mère, Laissez-les-Vives SOS Future Mère. Je suis secrétaire de ça, et je reçois des appels de femmes enceintes en difficulté et qui me demandent que faire. Et donc j'ai eu même un appel. À l'époque, les appels étaient taxés, hein, ça venait d'Auvergne, donc ça revenait cher, et pendant trois quarts d'heure, la femme disait, mais ne me dites pas que c'est ce que j'ai fait. elle ne se remettait pas de son avortement. Et là-dessus, Madame Olivier s'est dit, il faut qu'il y ait une association chrétienne qui puisse aller plus loin que de dire, faut pas avorter, on peut vous aider pour pas avorter, etc. Mais aussi pour donner un message chrétien, un message d'espoir, un message de la part de Jésus, en fait, pour ces femmes qui, soit étaient menacées d'avortement, soit, quand c'était trop tard, étaient complètement bouleversées et inconsolables. Donc, elle m'a contacté, et puis, de fil en aiguille, on s'est retrouvés à l'église arménienne à Paris, à l'église évangélique arménienne à Paris. On était une cinquantaine de personnes, et il y avait de tout, hein. Il y avait des protestants réformés, des protestants luthériens, des baptistes, toute la mouvance évangélique était là. Et là, on a formé deux associations. Le matin, c'était la Confédération protestante de France, pour dire un autre son que la Fédération protestante de France. Et puis, l'après-midi, l'Association des chrétiens protestants évangéliques pour le respect de la vie. C'est très long, mais tout le monde a dit son avis. Les protestants disaient, nous, on est protestants, mais on est aussi évangéliques. Les évangéliques disaient, on ne veut pas être appelé protestant. Et donc, chrétiens non seulement protestants, mais aussi évangéliques, ou alors les chrétiens protestants et les chrétiens évangéliques. Ça pouvait être pris dans les deux sens. Voilà pourquoi ce nom est très, très long. Et puis après, on a voulu rajouter SOS Maternité pour montrer ce qu'on faisait. Bon. Ensuite, on a créé, Madame Olivier a créé des numéros d'appel. Donc elle savait la procédure, puisqu'elle venait de SOS Future Mère, où il y avait un certain nombre de numéros d'appel répartis dans toute la France, où on conseillait les femmes en menace d'avortement, en grossesse difficile. Et donc là, elle a créé, à partir de réunions qu'elle faisait dans toute la France aussi, faisant des appels, est-ce que quelqu'un veut tenir un SOS Future Mère? À l'époque, c'était s'appelait SOS Future Mère, pour parce que nous sommes des évangéliques, nous devons aider ces femmes enceintes. Hein. Et les églises devraient avoir, toutes les églises devraient avoir quelqu'un ou être capable d'aider une femme enceinte en difficulté. Par la suite, c'est SOS Future Mère, pour pas être confondu avec l'association qui était officiellement non confessionnelle, on les a appelés SOS Maternité. Et puis ensuite, comme il y a beaucoup de gens qui téléphonaient pour prendre une place en maternité, on s'est dit ça va pas, donc on s'est intitulé Service d'aide aux femmes enceintes. Voilà. Donc ça c'est pour planter le décor. Donc maintenant je pense que je vais, comme on m'y a invité, je vais parler de ce que j'ai pu constater moi dans ma pratique médicale en tant que chrétien, protestant, évangélique, mais aussi médecin. Donc vous savez que quand on est médecin, on prête un serment qui s'appelle le serment d'Hippocrate. Et dans le serment d'Hippocrate, il y a « je ne mettrai pas de PCR abortif », c'est-à-dire « je ne ferai pas d'avortement ». Ce serment d'Hippocrate a été modifié, tout le monde l'a plus ou moins mis aux oubliettes, mais malheureusement, on a quand même le problème dans nos cabinets. Alors, je vais vous raconter tout un ensemble. Hein. Il y a des échecs, il y a des réussites, il y a des choses qui semblent un peu pas sérieuses, d'autres qui sont très sérieuses. J'ai été appelé une fois chez une dame qui m'a déclaré être protestante et elle était enceinte inopinément de son ami. Et elle avait déjà un enfant de cette amie, mais quand elle était enceinte pour la deuxième fois, elle s'est aperçue qu'il était marocain et qu'il y avait des problèmes de culturels. Et donc, elle ne voulait pas de ce deuxième enfant. Alors, bon, comme elle m'avait dit qu'elle était protestante, j'ai quand même donné quelques arguments, des arguments de bon sens, mais c'est quand même votre enfant, c'est quand même... Pourquoi lui n'aurait pas le droit de vivre alors que le premier a eu? Vous entendez bien avec votre ami, puisque... Ensuite, je lui ai parlé quand même de la vie humaine vue par le Seigneur. Et effectivement, Calvin a eu des propos très explicites pour dire que l'avortement n'était pas dans la volonté de Dieu. Et puis finalement, elle est restée sur sa décision. J'ai pas voulu qu'elle me paye parce que, en fait, j'avais fait plutôt du militantisme chrétien qu'autre chose. Et enfin, je lui avais pas donné ce qu'elle voulait. Quoi. Donc, et puis après, elle m'a envoyé un chèque quand même par la poste. Bon. J'ai eu aussi une Kosovare, donc bien intégrée, hein, donc qui était enceinte, mariée, pas de problème. Mais c'était au moment où elle avait des vacances et il devait se rendre au Kosovo. Et ça l'embêtait beaucoup d'être enceinte à ce moment-là. Je ne sais pas pour le camp d'Iraton, que sais-je, parce que bon, c'est assez rigoriste là-bas. Et puis elle voulait ne pas être enceinte. Bon. Et je lui ai dit, mais non, moi, c'est pas la bonne adresse. Moi, je peux vous aider si vous avez un problème pour la grossesse. Je peux vous aider, je connais des gens. Mais pour ça, vous ne pouvez pas compter sur moi. Alors, elle est allée directement à l'hôpital. Bon, c'était pas difficile de savoir qu'à l'hôpital, on pouvait avoir des avortements. Mais là-bas, ils ont dit, mais il faut un certificat de votre médecin. Bon, ça, c'était pour m'embêter. Hein. Bon. Donc, elle est revenue, elle a dit, il faut un certificat du médecin. Je ne donnerai pas de certificat du médecin, je n'ai pas à vous donner de certificat, et je ne vous en donnerai pas. Bon. On en est resté là, et puis, au retour des vacances, elle et moi, on se croise devant le bureau, devant le cabinet, et elle avait un beau petit ventre. Bon. Alors, est-ce que elle a réfléchi, finalement, si le médecin trouve que c'est pas bon, c'est peut-être que c'est pas bon, j'en sais rien, mais elle avait un beau petit ventre. Alors, malheureusement, elle a perdu son gamin, tout à fait naturellement, au cours de la grossesse. Hein. Donc, et quand elle me l'a dit, j'ai dit, mais c'est pas de votre faute. Hein, mais je sentais qu'elle culpabilisait parce qu'au début, elle ne voulait pas l'avoir, cet enfant. Et donc, finalement, elle ne l'avait pas eu. Voilà, puis on en est resté là. Parce qu'après, j'ai pris ma retraite. J'étais déjà à temps partiel à la retraite, donc je n'ai pas suivi le reste. Alors, il y a eu aussi. Donc, les médecins ne sont pas toujours à la hauteur des demandes des gens, parce que j'ai eu aussi une Turque, donc mais bien intégrée aussi, hein, pas de problème, on pouvait parler. Et elle était enceinte, et puis elle avait eu, on avait trouvé dans les prises de sang qu'elle avait fait une infection à l'hystériose. Alors l'infection à l'hystériose peut donner une fœtopathie, donc avec éventuellement des problèmes de cécité, de malentendance, d'aréation mentale, etc. Bon. Quand j'avais vu on ne savait pas si elle avait été déjà, avant la grossesse, si elle avait déjà fait la listériose, hein, parce qu'il n'y avait pas eu le test au moment de la déclaration de la grossesse. Sa grossesse avait dû démarrer au Kosovo, je ne sais pas, mais on n'avait pas d'examen. Donc, on n'était pas sûr finalement qu'elle avait fait une séroconversion, qu'elle avait été en contact avec le microbe pendant sa grossesse. Donc si elle avait été en contact avec le microbe avant la grossesse, il n'y avait pas de problème, elle était immunisée. Donc on ne savait pas ça. Bon. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait, nous, médecins, quand on voit qu'une femme enceinte a une listériose? Eh ben, on la met sous antibiotiques. Hein. La spiramycine, ça marche très très bien dans la cystite. Et c'est tout à fait compatible avec la grossesse. Je l'ai mise à la spiramycine. Et puis, à un moment donné, elle est quand même allée pour retenir sa place à la maternité, donc consultation, etc. Les bras au ciel, vous avez fait une listériose, vous risquez ceci, vous risquez cela. Et en plus, ils n'ont pas renouvelé la spiramycine. Pour eux, c'était clair, il fallait que le risque était trop grand que l'enfant soit... Alors, ce qui était absurde. Et donc, elle est venue me raconter ça. Et je crois qu'elle voulait savoir si c'était normal ou non. Parce qu'elle s'est dit, bon, ben, je suis dans un pays de couffards, donc ils ne respectent pas les gens, ils ne croient pas en Dieu, etc. Parce que les Turcs sont musulmans. Et donc, elle voulait savoir ce que j'en pensais, moi. J'ai dit, mais ils sont fous. Elle dit, ils sont fous. Et puis, je l'ai remise à la pyramicide. Et le gamin est né, puis tout à fait normal. Il s'est fait mémettre comme son grand-père. Bon, voilà. Donc, ça, c'est une bonne, un bon résultat. Alors, un autre médecin un peu fou aussi, c'était le radiologue. J'avais envoyé une femme enceinte de 40 ans. C'était une grossesse surprise. Et puis, je lui ai demandé de faire une échographie pour dater la grossesse, puisque c'est une grossesse surprise. Et là-dessus, le radiologue dit, vous avez 40 ans, mais il faut faire une amniosynthèse. Vous pouvez avoir un enfant trisomique. Le risque est 1%, hein. À 40 ans, le risque est 1% d'avoir un enfant trisomique. Il y a quand même 99% où les enfants ne sont pas trisomiques. Et quand on fait une amniosynthèse, on sait bien qu'il y a au moins 1% de risque de fausse couche. Si bien qu'on arrive à provoquer des fausses couches sur des enfants pas du tout trisomiques, mais parce qu'on a fait une amniosynthèse. Alors, elle revient et puis elle dit, voilà, il a dit, il faut que je fasse une amniosynthèse. Je regarde son échographie, j'ai dit, mais il n'y a aucun motif de faire une amniosynthèse, parce que vous voyez, l'épaisseur de la nuque, elle est normale, parce que donc on faisait des échographies pour voir l'épaisseur de la nuque, et puis pour dire, voilà, l'épaisseur de la nuque est trop grande, donc il faut faire, il y a un risque de mongolisme, il faut faire l'amniosynthèse, etc. J'ai dit, mais vous voyez l'épaisseur de la nuque, je me suis défendu, elle est normale, il n'y a pas de raison de faire une amniosynthèse. Il n'était pas question que je demande une amniosynthèse d'ailleurs. Mais là j'avais un argument. Et puis, elle est repartie. Je ne l'ai plus vue. Et puis, j'ai téléphoné au radiologue. Écoutez, je vous ai demandé une datation de grossesse. Je ne vous ai pas demandé votre avis sur une amniosynthèse. Vous êtes radiologue et moi, je suis généraliste. Non. Il n'était pas content. Très longtemps après, venant payer une dot de l'église qui n'avait pas été payée dans un endroit où elle travaillait, c'était elle, la secrétaire, et puis elle avait son gamin, elle en était très contente. Et il n'était pas du tout mongolien. Bon, pas bonne, pas du tout trisomique 21. Alors, là, c'est un peu en rapport avec l'évangile. La dame était une patiente, mais aussi elle savait que j'étais un médecin chrétien. Elle-même elle faisait partie d'une église chrétienne de Villiers-le-Bel. Et elle m'explique que son fils a enceinté une jeune fille qui vit chez sa tante. Mais la tante, elle a un ami et ça crée des tensions et elle ne sait pas où aller. Elle n'a pas parlé vraiment de pression de l'ami pour qu'elle avorte, mais bon... Voilà, elle ne savait pas où la mettre. Et puis elle ne voulait pas l'amener chez elle parce qu'il y avait son fils. Et donc, il n'était pas question qu'elle ait un couple en activité qui ne soit pas marié chez elle. Donc, finalement, comme on la connaissait bien, on l'a accueillie chez nous. Mais ça, on dit toujours aux gens, surtout faites attention, parce que vous ne savez pas qui vous accueillez et vous ne savez pas non plus les gars, la réaction des gars. Donc... Ne prenez pas les gens chez vous, mais là, comme on connaissait bien ces gens-là, donc on l'a prise chez nous. Bon, ça s'est bien passé. Quelque chose d'un peu plus costaud, là, c'est un collègue qui me téléphone et dit Wolf, je suis très embêté parce que j'ai une gamine de 17 ans qui est enceinte, là. Son copain a 21-22 ans, il a un travail, il veut bien de l'enfant, etc. Mais elle a peur de la réaction de sa mère. Et donc, elle est allée dans un endroit de bon conseil, dans le coin, et là, on lui a proposé un avortement par un non-médecin, moyennant 6000 francs en liquide. Et elle ne les avait pas. Alors, moi, je ne suis pas contre l'avortement, mais ça m'écœure tellement que je te le dis, quoi. Bon. Alors, je dis, bon, ben, tu n'as qu'à me l'envoyer. Et là, je lui ai expliqué, si tu as peur de ta mère, tu feras la déclaration de grossesse le plus tard possible. À l'époque, c'était avant le quatrième mois de grossesse. Hein, parce que pour toucher l'allocation de jeune enfant, qui était touchée dès le début, dès la déclaration de grossesse, dès le quatrième mois, justement. Maintenant, l'allocation de jeune enfant, c'est à la naissance. Hein, donc, ça a un peu changé. Et je lui ai dit, donc il faudra faire la déclaration au dernier moment, et comme ta mère recevra les papiers de la sécurité sociale, bien entendu, c'est à ce moment-là que tu t'expliqueras, mais on aura gagné du temps. Et si elle te met à la porte, eh bien, tu viens chez nous, et on ira voir, comme tu es mineur, on ira voir la gendarmerie, on déclarera que tu es chez nous parce que tu as été mis à la porte par ta mère. Bon. Ça s'est pas mal passé, et assez longtemps après, alors je crois que l'enfant avait 4 ans déjà, était déjà né, elle venait me montrer un de ses gamins, c'était pour me dire quelque chose, hein, parce que je lui avais dit surtout, vous continuez avec le confrère Camélia, enfin bon, le confrère, c'est pas question de faire une captation de clientèle, et elle me dit, voilà l'enfant, et peu de temps après, elle a dû me raconter ça, parce qu'elle a dû raconter ça à sa mère. Peu de temps après, la mère téléphone en disant « Mais vous savez, docteur, il ne faut pas croire que je suis méchante, hein, moi, parce que je suis évangélique. » Donc en fait, elle avait, comme la mère était évangélique, elle a eu peur du scandale, voilà, enceinte sans être mariée, et elle était prête à faire une bêtise. Heureusement qu'elle n'avait pas les 6 000 francs. À l'époque, c'était les francs. Alors, le point de vue d'un homme, encore une question sur les médecins. Bon, tous les médecins ne sont pas comme ça, hein, enfin bon. C'était une patiente qui était enceinte et qui avait un kyste de l'ovaire en même temps. Elle dit, bon, bah, vous êtes enceinte, vous avez un kyste de l'ovaire, on va surveiller mieux. Et puis, bon, bah, finalement, elle est allée à l'hôpital pour surveiller sa grossesse. Il y avait une kyste de l'ovaire, c'était quand même un peu plus compliqué. Et là, on lui a proposé carrément d'avorter. C'était trop compliqué d'avoir une grossesse avec une kyste de l'ovaire. Et donc, elle me l'a dit, et je lui ai dit, c'est absurde, il n'y a pas question. Vous allez accoucher, et puis après, on va s'occuper du kyste de l'ovaire. Et donc, ce qui s'est fait, et après, la famille était très contente que j'ai donné le bon conseil de ne pas suivre les conseils du spécialiste. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que la grossesse suivante, d'abord, elle n'est pas allée donner suite pour enlever le kyste de l'ovaire à l'hôpital, et elle a été enceinte par la suite, et là, elle n'est pas allée à l'hôpital, justement, de peur qu'on lui fasse la même proposition, elle est allée dans une clinique où, est-ce qu'elle a été moins bien suivie qu'à l'hôpital, mais elle a fait un avortement, mais un avortement, un vrai, quoi. Bon. Donc, un avortement spontané. L'enfant était mort. Alors maintenant, pour montrer un peu, finalement, comment les gens perçoivent l'avortement, je vais vous donner le point de vue d'un homme, une interrogation d'un patient. Il disait, docteur, vous êtes contre l'avortement ? Et oui, bien sûr. Mais vous prescrivez la pilule ? Et oui, je prescris la pilule. Quelle est la différence ? Alors là, je lui fais un petit dessin. Il dit, voilà l'utérus, voilà les ovaires. Bon. La pilule, voilà. Donc le ver va pondre un œuf qui va aller dans la trompe, qui va être fécondé par le spermatozoïde, et quand on prend la pilule, il n'y a pas de ponte de l'œuf. L'œuf n'est pas pondu, donc le spermatozoïde se retrouve comme ça, et puis donc il n'y a pas de grossesse. Ah oui, et puis il y a de l'avortement alors. Ben, l'avortement, l'œuf va dans l'utérus, il est fécondé par le spermatozoïde, il y a un embryon qui se développe. Et quand on fait un avortement, on le retire. Il me dit, mais alors c'est un crime. Voilà. Alors, bon, j'ai arrêté un peu avec mes cas. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, le stérilet, normalement, empêche l'anidation. Hein, donc, c'est son principal, sa principale, son action principale. Donc certains stérilets empêchent au cuivre, environ supprime un tiers des spermatozoïdes. Donc il y a peut-être une petite action anticonceptionnelle. Mais c'est loin d'être le mécanisme normal, puisque il y a des femmes qui sont enceintes sous stérilet. Alors, il y en a qui disent que ça bloque l'ovulation. Alors, peut-être que les stérilets aux hormones bloquent l'ovulation. Donc, ça agit un peu comme une pilule. Mais il y a aussi des femmes qui sont enceintes sous ces stérilets. Alors, on dit essentiellement qu'il est antidilatatoire, et ça, c'est sa principale action. C'est aussi la raison pour laquelle les grossesses sous stérilet sont plus facilement ectopiques, c'est-à-dire restent dans la trompe, plutôt que dans l'utérus. Donc, c'est parce que... La grossesse sous stérilet est très rare, hein, c'est de l'ordre de 1%, hein, bon, mais ça prouve bien que c'est l'anidation qui est en cause. Puisque la grossesse ectopique est moins inhibée par le stérilet que la grossesse normale, parce que le stérilet agit surtout sur l'utérus. Voilà. Bon. Voilà ce que je pense. Oui.
Bonjour docteur. Moi j'aurais deux questions à vous poser. La première, c'est quel serait votre choix entre la naissance de l'enfant ou la mère qui décède? Première question. Et deuxième question, une jeune fille, une femme qui se fait violer, qu'est-ce que vous faites? Elle est enceinte. Qu'est-ce que vous faites?
Alors je réponds à la première question. Donc en effet, dans l'histoire de la médecine, il y avait des accouchements très très problématiques où il fallait choisir entre la mère et l'enfant. C'est-à-dire on faisait une basiotripsie, que le fœtus ne passait pas. Donc on prenait un basiotrib, qui est en fait un instrument qui sert à broyer le crâne du bébé, et puis comme ça, l'accouchement se faisait. Et donc ça arrivait en effet que pendant ces accouchements dramatique au 19e siècle, il y en a un qui disait sauver la mère. Bon, il n'y a pas de doute en effet entre la mère et l'enfant. On choisit la mère. Hein, bon. Il y a eu un peu après, il y a eu les grossesses dans des cas pathologiques. Et donc on disait, la femme va mourir de sa grossesse. Et donc plutôt qu'il y ait la perte de deux vies, on va faire un avortement thérapeutique. Hein, donc, ça a été à l'époque, au milieu du XXe siècle. Et puis après, les progrès de la médecine ont été tels que finalement, la grossesse, la vie de la mère n'était pas menacée par la grossesse. J'ai eu un cas, alors là, ça fait longtemps, c'était à Charleroi, c'était dans les années 80, et il y a une femme qui s'est levée et elle a dit je suis diabétique et j'ai été enceinte et on m'a conseillé de faire un avortement thérapeutique. Je suis allé voir un deuxième avis où on a dit mais madame, maintenant il y a l'insuline ordinaire, on va vous faire 3 piqûres d'insuline ordinaire par jour, on contrôlera très bien la glycémie. Et elle dit maintenant j'ai une fille de 16 ans. Les progrès ont été considérables en matière de traitement des femmes même malades, des femmes enceintes même malades. Donc de ce côté-là, choisir entre... c'est vraiment un cas d'école, hein, ça n'arrive plus. Choisir entre la vie de la femme et la vie de l'enfant, ça n'arrive plus. Bon, ça c'est la première chose. Alors pour le viol, bon, ben, c'est vrai que le viol est une chose horrible, hein, on est tous d'accord. C'est un crime, c'est abominable, ça ne devrait pas exister. La femme est traumatisée, elle va faire probablement un syndrome post-traumatique suite au viol. Mais ce qui se passe aussi, c'est que quand on fait l'avortement, après, elle fait aussi un syndrome post-traumatique suite à l'avortement. Donc, c'est-à-dire, au lieu de réparer le viol, bon, on le répare socialement, hein, donc elle n'a pas un enfant du viol, mais psychologiquement, au lieu de le réparer, on aggrave les choses. Et on sait qu'en Irlande, par exemple, où l'avortement est interdit, eh bien, seulement 18% des femmes ne gardent pas l'enfant du viol, donc se débrouillent pour ne pas le garder. Je crois que Madame Olivier disait tout simplement l'enfant du viol, il est aimé du Seigneur, comme l'enfant d'une relation tout à fait normale, dans le mariage, etc. L'enfant du viol est aimé. Comme l'enfant handicapé, il a le même regard d'amour de Dieu sur lui. Et donc, ce qu'on conseillait, ce qu'on disait, ben, si vraiment la femme ne peut pas accepter l'enfant du viol, eh ben, elle le donne à l'adoption. Donc ça c'est une opinion, hein, mais ce qui se passe aussi, c'est que la femme du viol, quand elle garde l'enfant et que l'enfant est là, des fois elle le garde, alors qu'il était question qu'elle le donne à l'adoption. Voilà, donc le point de vue évangélique, il est là. Hein, l'enfant du viol, c'est aussi un enfant de Dieu et il est aimé de Dieu comme les autres. Même si son père est un type infect. Bon, voilà. D'autres questions ?
Alors, du coup, monsieur, quand c'est le stérilé, il y a quand même une fécondation, donc c'est quand même une sorte d'avortement.
Bah, c'est-à-dire que ça se fait automatiquement. Quoi. C'est-à-dire dans l'avortement, la femme vient nous trouver en disant « je suis enceinte, je ne le veux pas ». Enfin, des fois, ça veut dire « si mon mari ne le veut pas, mon amant ne le veut pas, mon papa ne le veut pas ». Enfin bon, c'est ça, je suis enceinte. Quoi. Tandis que dans le stérilet, on ne sait pas quand elle est enceinte. Hein. Donc, des rapports fécondants, il n'y en a pas chaque mois. Hein. Donc, on ne sait pas quand elle est enceinte et si elle est enceinte. Donc, c'est quelque chose qui se passe automatiquement. C'est pour ça que ça passe pour un moyen contraceptif. C'est un moyen contraceptif dans le sens que c'est pour éviter une naissance. Mais voilà, donc le mécanisme... Moi, je n'ai jamais conseillé le stérilet. Et je dois dire que j'ai vu des accidents de stérilet. J'ai vu une fois un accident de pilule chez une femme de 32 ans qui avait fait un infarctus, mais pas grave, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'elle s'en était très bien tirée. Alors, il était peu question qu'elle prenne la pilule, bien sûr. Mais par contre, des accidents de stérilet, oui, j'ai vu des grossesses extra-utérines de stérilet, dont une a failli très très mal se terminer. Hein. J'ai vu la femme le matin, elle avait rendez-vous chez le gynécologue l'après-midi pour changer le stérilet, et elle avait mal au ventre. Et je l'ai examinée. Donc, à la maison, hein. Un toucher vaginal à la maison, il faut le faire, bon. Et j'en ai conclu qu'elle avait une infection sur le stérilet. Je lui ai dit, mais puisque vous voyez le gynécologue dans l'après-midi, c'est lui qui va prendre la décision. Et dans la fin de la matinée, le mari me téléphone en disant, elle va vraiment très mal. Elle était blanche, elle avait du sang jusqu'au nombril, dans le ventre. On l'a envoyé vite fait, et donc on s'en est bien tiré. Mais c'est vrai que j'ai jamais conseillé ça.
Et c'est quoi la meilleure contraception pour une chrétienne alors ?
Pour une jeune fille chrétienne, c'est l'abstention, c'est sûr. Pour une jeune fille chrétienne, c'est l'abstention. Pour une chrétienne, oui, ça dépend. Ça dépend si on veut seulement espacer les naissances. Donc à ce moment-là, il y a la vérité de Billings, donc qui consiste à avoir la période de fécondation maximum. On s'en sert d'ailleurs dans le sens contraire, hein, pour les femmes qui veulent absolument avoir un enfant et puis ils l'ont pas. Donc on vérifie sur la glaire cervicale, donc il y a des petits cours à suivre, hein, avec des clubs Billings, et sur la glaire cervicale, elles voient si elles sont fécondables ou non. Donc, si elles sont fécondables et qu'elles ne veulent pas d'enfants, elles disent au mari, la porte est fermée. Hein? Je suppose qu'il est d'accord, d'ailleurs. Bon. Bon, alors, il faut une certaine discipline, bien entendu. Et ça, c'est pour espacer les naissances. Ça veut dire que, bon, bah, si ça rate, bah, voilà, ça a raté. Et puis voilà, hein, bon, c'est, le Seigneur l'a voulu ainsi, il nous donne un enfant. Bon. Donc, mais ça permet de ne pas avoir un enfant tous les ans, tous les ans, tous les ans. Par contre, s'il faut absolument qu'elle n'ait pas d'enfant pendant un certain temps ou définitivement, la meilleure solution, c'est la pilule, bien sûr. La pilule anticonceptionnelle. Bon. Alors, j'ai toute une liste de pilules. Je les ai listées dans la lettre 160 de l'acte pervique. Il y en a quelques exemplaires, là, sur la table, à gauche. J'ai listé les pilules. Bon, c'était... Je crois que le listage date du début du 21e siècle. Hein. Bon, enfin, c'est dans la même idée. Et donc, il y a des... C'est comme le stérilet. Hein. Il y a des pilules qui sont antinidatoires. Donc, ils agissent essentiellement pour empêcher l'embryon de s'implanter. Et puis, il y a des pilules qui sont très anti-ovulatoires, qui bloquent l'ovaire. Et puis, il ne faut pas oublier une autre mode d'action de la pilule, c'est qu'il épaissit la glaire cervicale et que ça fait une espèce de bouchon et le spermatozoïde ne peut pas rentrer ou très difficilement dans l'utérus. Donc, pour une femme où il y a une indication médico-sociale, mais essentiellement médicale, de ne pas avoir d'enfant, une maladie intercurrente, ou alors elle a fait des grossesses rapprochées qui l'ont mise sur le flanc, des choses comme ça, la meilleure solution, c'est la pilule. C'est pour ça que je la prescrivais, hein, parce que j'ai fait ma thèse là-dessus, précisément, hein, sur le suicide et la régulation des naissances, pour savoir ce qui était licite ou illicite chez le chrétien, par rapport à la parole de Dieu. On m'a dit que ma thèse était très originale. Donc, je crois que là, si on veut revenir avant la Grande Motte et avant l'histoire de Caen, avant, il y a eu la bataille pour la pilule. Et alors, il y avait deux camps, il y avait les natalistes et les catholiques, et puis il y avait les progressistes et les libertaires qui s'affrontaient. Et c'est pour ça que j'ai fait la thèse, j'ai dit je veux trier le bon grain de l'ivraie, savoir jusqu'où on peut aller, et à partir de quand on doit s'arrêter. Donc, je prescrivais la pilule sans problème. Simplement, une fois, il y a une gamine de 13 ans, on va bien former hein, quand même, qui m'a dit qui est venue pour la pilule. J'ai dit t'as une autorisation de ta maman. Alors bon, il fallait plus d'autorisation d'un moment, je crois, déjà à l'époque. Et j'ai dit, tu veux encore grandir, hein? Ah oui, je veux encore grandir. Bon, ben, tu sais, ça risque de bloquer ta croissance. Hein? Ah bon. Puis finalement, il est parti sans pilule. De toute façon, je ne l'aurais pas donné. Mais j'aurais au moins exigé que la maman soit là pour dire qu'elle était d'accord. Mais, parce que souvent le problème, c'est que la fille, la jeune fille, entre guillemets, qui venait nous voir pour la pilule, elle avait déjà commencé depuis longtemps. Alors ce que je voulais éviter, moi, c'était qu'on vienne devant moi, comme devant le maire, pour que j'ai le jeune homme le feu vert pour des rapports avant mariage. Hein. Mais ça, c'est extrêmement rare. Généralement, elles venaient parce qu'elles avaient déjà... Ils avaient déjà eu des copains, et puis un jour, on leur a dit, mais si un jour tu es enceinte, etc. Donc, je la prescrivais facilement à 16-17 ans, oui. Mais ça, c'était pas pour couvrir des habitudes qui ne sont pas dans le mariage chrétien. Hein. C'était simplement parce que... Je savais que si je la prescrivais pas et qu'un jour elle était enceinte, eh ben, elle viendrait me demander plus. Donc, voilà. Donc, je dirais simplement contraception des mineurs, attendre le mariage, et contraception de la femme mûre, mariée, etc. Ce serait plutôt la méthode Billings ou des méthodes analogues, la méthode des températures, par exemple. Et puis, si c'est vraiment une indication pour vraiment dire qu'il faut arrêter un temps ou définitivement, c'est la pilule. Je pense que c'est... Alors, on me dira, oui, mais alors il y a les femmes psychiatriques, elles savent pas si elles prennent la pilule ou si elles ne prennent pas. Donc, à ce moment-là, il y a quand même l'implant. Alors l'implant est très bien, il est anti-ovulatoire. Alors le problème, c'est que, bon, j'étais assez enthousiaste pour ça, j'ai demandé l'avis de gynécologue, une gynécologue avec qui j'avais de bonnes relations, elle m'a dit, à l'hôpital, ils se sont mis à en faire beaucoup, et puis ils ont arrêté d'un coup parce que les femmes grossissaient. Et en effet, j'ai une femme qui a grossi de 30 kilos, 30 kilos, c'est pas moi qui avais mis l'implant, hein. Bon. Mais elle avait grossi de 30 kilos. Alors bon, alors ça c'est aussi à débattre. D'autres questions? Ah, sinon je peux reprendre sur...
Oui. Moi je j'aborderai, parce qu'il y a, toute cette problématique de l'avortement pendant un long moment, mais là en ce moment on est beaucoup sur la fin de vie. Et voilà, quels sont les conseils généraux des cas particuliers rencontrés au sujet de la fin de vie?
Ben, les cas particuliers, justement, pour promouvoir l'euthanasie, on nous sort bien sûr des cas particuliers. Hein, notamment, chaque fois, il y a quelqu'un qui a une maladie qui semble plus ou moins épouvantable, qui des fois l'est d'ailleurs, et qui réclame l'euthanasie, et qui donc on ne peut pas faire l'euthanasie en France, on va en Suisse, on va en Belgique, etc. Et je crois que toute la pathologie va y passer. Hein. La dernière, c'était la maladie de Charcot. Oui, bon, c'est vrai que l'espérance de vie dans la maladie de Charcot, il ne faut pas confondre avec la Charcot-Marie, hein, mais c'est la maladie de Charcot tout court, la sclérose latérale amyotrophique, l'espérance de vie est de 4 ans. Bon, en 4 ans, quand même, on peut encore faire des choses. Hein. Et puis, il y a des moyens de soulager, de traiter. Donc, il n'y a pas de raison de dire, je veux... Enfin, pardon. Tout le monde est libre de se suicider, hein, enfin, pas vis-à-vis du Seigneur, mais légalement, tout le monde est libre de se suicider. Mais enfin, c'est pas la peine de refaire toute une histoire à ce moment-là. Hein. Je pense que quand on a une maladie de Charcot, ben, voilà, il y a des cancers qui donnent moins d'espérance de vie. Hein. Bon. Alors, dans ces cas-là, on va encore nous servir encore une autre maladie la prochaine fois, hein, ça c'est sûr. C'est pour promouvoir l'euthanasie, pour dire, vous voyez, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, quoi? Mais quand on est médecin, on fait quelque chose pour le patient, on ne le tue pas. Il est capable de se tuer tout seul. Alors bon, bien sûr, il y a le tétraplégique, lui, il ne peut pas se tuer tout seul. Ça, c'est d'accord. Enfin, ça arrivait de temps en temps qu'il y a quelqu'un de la famille qui lui donnait le coup de grâce. Hein. Et puis il était acquitté, parce que là, on... Bon, c'était en toute liberté. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsque c'est légalisé, lorsque c'est fait, le suicide est fait par quelqu'un d'autre, ce qui est absurde, parce que le suicide, c'est le meurtre de soi-même par soi-même, on peut ensuite glisser vers une euthanasie de type nazi, c'est-à-dire, voilà, des gens qui sont mal formés, qui ne méritent pas de vivre, qui sont handicapés, on va les supprimer parce que c'est une trop grande charge. Et c'est comme ça que le système nazi a institué ces massacres à grande échelle. Ce sont des médecins qui avaient commencé à dire les maladies génétiques, les handicaps, etc., jusqu'à avoir des races génétiquement inférieures. Donc le glissement commence en Belgique actuellement. Parce qu'on en est venu de l'euthanasie librement consentie, librement demandée, il y a une commission qui vérifie, etc. Maintenant, on parle d'euthanasie et des déments. C'est-à-dire les vieux qui ne savent plus qui ils sont, où ils sont, quel est le prénom de leur enfant. On va leur demander s'ils veulent être euthanasiés. Comment ils peuvent donner leur assentiment. Et puis, maintenant, on parle de maladie psychiatrique. Et on commence à euthanasier des dépressifs. Mais quand vous êtes dépressif, vous dites tout le temps « je voudrais crever ». Mais j'en ai vu, moi. Des gens s'effondrer devant moi, de pleurer, etc. J'en ai marre de la vie, etc. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, médecins? On dit « mais non, attendez, on va vous donner des antidépresseurs, on va vous traiter ». Et puis, vous savez, la dépression, c'est cyclique. Hein, c'est cyclique. Des fois, vous n'avez plus de dépression, vous en rigolez. Et maintenant, eh bien, voilà, je suis déprimé, je veux mourir. Ah ben oui, oui, bon, ben d'accord, voilà, on va vous supprimer. Voilà, donc où nous en sommes. Le problème, c'est le glissement, c'est un peu comme l'avortement d'ailleurs. À partir du moment où c'était légalisé, l'avortement a explosé. Dans tous les pays où il y a eu la légalisation de l'avortement, le nombre des avortements a été multiplié par 5 à 7. Parce que, ben oui, bien sûr, c'était normal. Il n'y a pas de raison de se gêner. Il n'y avait pas l'interdit. Alors, entre parenthèses, pour le suicide, tiens, j'en parle, parce que c'est aussi la prévention du suicide, c'est aussi dans les statuts de l'ACPERI. Avant, il y avait le tabou du suicide. Il y avait l'interdit. Donc, dans une société où il y avait encore beaucoup de catholicisme, notamment quand il s'agissait de faire les funérailles et d'être enterré, normalement, un suicidé n'avait pas le droit à un enterrement chrétien. Donc, il était, officiellement, il était condamné à l'enfer. Hein? Donc, c'était ce qu'on pensait. Alors, je ne sais pas si c'était la doctrine, mais c'est ce qu'on pensait. Mais petit à petit, on a dit, ben oui, c'est vrai, mais c'est des gens malheureux, c'est des gens déprimés, ils se suicident parce que personne ne les a aidés. C'est un peu comme les femmes enceintes. Personne n'est venu leur tendre la main. Et plutôt que de les condamner, il vaudrait mieux attendre, les aider. Et il y a eu SOS Amitié, il y a eu un certain nombre de mouvements. Et maintenant, eh bien, le suicide est considéré presque comme quelque chose de normal. Mais alors, si c'est quelque chose de normal? Et souvent, c'est, le danger est chez les adolescents, parce que le suicide est la deuxième cause de mort des adolescents. C'est que ils ont souvent envie de vivre, mais aussi envie de mourir. Ils ne savent pas trop, ils essayent. Ils jouent à la roulette russe. Ils se jettent par la fenêtre, ils disent « Bon, si j'en réchappe, tant mieux. Si j'en réchappe pas, tant pis. » Et ils n'ont pas l'idée que le Seigneur ne leur donne pas le droit sur leur propre vie, que leur vie appartient au Seigneur et pas à eux-mêmes. Pour la loi, bien sûr, leur vie leur appartient, c'est à eux de décider, ils sont libres. Mais pour le Seigneur, leur vie appartient au Seigneur. Et s'ils se disent ça, eh bien, il y a un garde-fou, il y a un tabou, il y a une inhibition qui les empêche de passer à l'acte. Donc ça, c'est aussi très important. J'en reviens à l'euthanasie. À partir du moment où l'euthanasie devient légale, autorisée, etc., on va pousser de plus en plus de gens vers l'euthanasie, même des gens qui sont capables de donner leur avis, mais il y a eu telle pression de la famille, qu'ils étaient à charge, qu'ils coûtaient cher à la société, etc. Ils finissent par consentir. Voilà donc le problème de la fin de vie. Alors là, il y a eu le problème de la fin de vie dans les souffrances, notamment pour les cancers terminaux. Et là aussi, il y a eu un montage. On admettait depuis très longtemps qu'il ne fallait pas lésiner sur la morphine. Ce n'est pas la peine d'assommer les gens, mais on donnait suffisamment pour qu'ils aient pas mal. Et puis, on s'est trouvé devant des cas où ça ne marchait pas complètement. Après, ben on donnait des sédatifs. Ça potentialisait la morphine. D'autre part, comme les gens étaient sédatés, comme on dit, il n'y avait pas cette charge émotionnelle qu'il y a devant la douleur. Parce qu'une douleur, utile comme dans l'accouchement, c'est pas la même chose qu'une douleur néfaste comme des tortures données aux opposants. C'est pas pareil. Donc, on sédatait la personne et on faisait ce que la société de réanimation d'angle française disait, on faisait une titration. C'est-à-dire qu'on dosait au fur et à mesure des résultats. Et puis là, on en est venu à dire, eh bien, puisque ces gens vont mourir, eh bien, on va les endormir jusqu'à leur décès. Et puis, ben finalement, puisqu'ils sont endormis, on ne va plus leur donner les hydrater, on ne va plus les aider et on ne va plus les nourrir. Ben oui, mais à ce moment-là, on les fait mourir de soif. Hein? Bon, ne pas les nourrir, ça peut attendre longtemps, ça peut attendre 30 jours. Mais de soif, on meurt très vite. Comment ? Quelqu'un disait quelque chose ?
Mais c'est vrai que les mourir de soif, comme vous dites, c'est terrible.
Je dirais même que la nourriture compte aussi. Je pense que les soins palliatifs, c'est vraiment... Donc les soins palliatifs, c'est quand même... c'est nourrir et hydrater. Bon, ce qui se passe aussi, c'est que la nutrition parentérale peut être très mal supportée par le patient. Il peut arracher la sonde, etc. Bon, si au bout de 3 fois ou 4, il a arraché la sonde, je pense qu'il ne faut pas insister. Mais on doit pouvoir, normalement, la nutrition parentérale, c'est un tube qui va dans l'estomac, et puis on met des produits nutritifs. C'est ça, les soins palliatifs, c'est-à-dire, ce sont des soins, mais qui ne visent pas à la guérison du malade. Donc on ne tente rien. Bon, par exemple, si la personne est là, elle est nourrie, elle est hydratée, mais soudain elle fait une apnée, elle ne respire plus, on ne va pas la ventiler. Dans la mesure, bien sûr, où le pronostic est fatal. Hein. Donc, bien sûr, évidemment, autrement c'est un accident de la route, on va le ventiler. Hein. Mais on ne va pas ventiler. Mais par contre, si elle est déjà ventilée, on va partir de la ventilation, parce que c'est la même chose, on ne va pas la faire étouffer. Donc ça, c'est une question de médecin, oui. Mais les soins palliatifs, en principe, il y a tout ça. Bon, pareil, s'il y a un arrêt cardiaque, on va pas faire de massage cardiaque. Un cancéreux en fin de vie, qui en a pour quelques heures ou quelques jours à vivre, c'est que c'était ce moment-là qu'il devait mourir, hein, s'il fait un arrêt cardiaque. Ça ne sert à rien de faire. Par contre, pour un type qui vient de se suicider et puis qui vit encore, on va faire un massage cardiaque. Pour un accident de la route, on va faire un massage cardiaque, évidemment. Hein. Attends, on ne va pas discuter. Mais en fin de vie, l'idée des soins palliatifs, c'est de donner tout le confort au malade dans le temps où il n'est pas encore décédé de sa maladie.